d'emploi. Mode d'emploi.
Et voilà, chers camarades, chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur Mode d'emploi, le format secret de fabrication. Comme tous les troisièmes vendredis chaque mois, en exclusivité, une actualité sur toutes les luttes et les combats menés dans notre beau pays. Et comme nous sommes au mois d'avril et que nous sommes à 150 ans de la Commune de Paris, qui est toujours en activité il y a 150 ans et qui est toujours dans nos cœurs aujourd'hui, eh ben, nous allons faire encore une fois un parallèle entre les activités d'hier et d'aujourd'hui. Et nous avons comme invitée exclusive Marion, en direct, je tiens à le dire, du théâtre occupé de l'Odéon, qui est aujourd'hui le point névralgique des luttes. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu résister à la tentation de l'inviter à notre émission. Bonjour Marion.
Bonjour à toutes et tous.
Voilà, donc on va commencer par l'actualité chaude, on va dire, hein, qui n'y a pas 150 ans là pour le coup, puisque tu es en ce moment même au Théâtre de l'Odéon, où je crois que vient de se terminer une assemblée générale. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'occupation en cours, ta participation, et puis l'assemblée générale qui vient d'avoir lieu, pourquoi des assemblées, et quelle régularité, et de quoi discutez-vous ?
Eh bien, je vais peut-être commencer par le début, même si je n'étais pas présente lors de l'action qui a mené à ouvrir les portes du Théâtre de l'Odéon et l'occuper notre lieu de travail. Et en fait, d'abord dire qu'on rentre par la porte quand on fait une occupation et que souvent ça se joue à une porte près. Mais voilà, celle-ci, on a réussi à l'ouvrir et à s'installer. Et donc, comment fonctionne l'occupation ? Effectivement, là, le matin, tous les matins, nous avons des AG, mais nous avons aussi une AG tous les soirs. Donc, nous avons deux AG par jour. Et matin comme après-midi, il y a aussi des réunions de commission, parce que pour faire vivre à la fois l'occupation de l'intérieur, mais aussi faire des liens avec l'extérieur, les luttes, organiser nos agoras, etc., nous avons besoin de commissions pour coordonner et organiser tout ça. Voilà comme on se déroule une journée, et tous les jours de 14h à 16h, et puis ça se prolonge aussi souvent informellement. Nous avons donc des agoras, qui est une des premières choses qui a été mise en place lors de l'occupation, aussi en écho à ce qui avait été fait en 68. Quand le théâtre de l'Odéon a été occupé en 68, il y avait aussi des agoras. Alors après, les conditions, disons, les rapports avec la direction étaient tout autres, puisque Jean-Louis Barrault, qui était alors directeur de l'Odéon, faisait partie intégrante de l'occupation et soutenait la lutte. Il s'est d'ailleurs même fait virer pour ça. Et du coup, voilà. Et aujourd'hui, nous, avec la direction, c'est beaucoup plus compliqué. On n'est pas les bienvenus. Et donc, c'est des négociations toujours un peu difficile pour les conditions d'occupation, notamment les lumières restent allumées à full toute la nuit pendant qu'on dort, voilà, des choses comme ça. On a une douche pour 42 personnes, on ne peut pas rentrer et sortir comme on veut. Une personne qui sort permet de faire rentrer une personne, voilà, on ne peut pas, on est à un nombre stable. Donc voilà.
Un numerus clausus, en fait.
Voilà, tout à fait. Et puis, du coup, cette chose-là fait que aussi c'est difficile de pouvoir faire le lien avec la place de l'Odéon et les gens qui viennent pour les agoras, puisque tout le monde ne peut pas sortir pour rencontrer les gens qui viennent et voilà. Donc voilà. Mais ces agoras sont quand même hyper importantes, à la fois pour nous de l'intérieur, avoir de la force, de l'énergie, et aussi pour le transmettre aux autres personnes qui ne seraient pas présentes à l'occupation, mais présentes dans la lutte et en soutien. Un point hyper important, la très chaude actualité, c'est que en fait, la préfecture de police de Paris commence à interdire c'est pas interdire les agora, mais à trouver des petits stratagèmes pour nous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, ça a commencé le samedi 3 avril, où en plus, parce que tous les samedis après-midi, ça s'appelle Agorart, et c'est là où c'est plus festif, avec des concerts, des performances, voilà. Et donc, ce samedi 3 avril, en plus, on accueillait des groupes et des musiciens, musiciennes d'outre-mer. Et en fait, ils n'ont pas pu jouer, au prétexte qu'il ne fallait pas qu'il y ait de musique amplifiée. Ça a déjà commencé, en fait, je ne me souviens plus du numéro de jour, avec le 25 mars, où on accueillait un orchestre symphonique. Et,
oui, j'étais là.
C'est un fait intéressant de noter qu'un orchestre symphonique ne peut pas être une manifestation revendicative. Et donc, la préfecture de police a considéré qu'un orchestre symphonique, c'était une manifestation culturelle, donc a refusé au départ de laisser jouer cet orchestre, alors qu'on a bien précisé que non, nous déclarons les rassemblements des agora tous les jours, et que c'était bien un événement revendicatif, et que c'est pas parce que c'est de la musique classique que c'est culturel. Donc c'est intéressant de voir ce qui est pour eux de la culture et ce qui n'en est pas.
Ouais. Il y en a un qui brille pas par sa manifestation culturelle, c'est bien l'allemand. Ouais.
Ça fait. Et donc là où on en est aujourd'hui, c'est que je ne sais plus quel jour, il y a la préfecture a dit, ah oui, du coup, donc la musique amplifiée pas possible, donc on a prévenu les musiciens, musiciennes de cette semaine de venir pour jouer en acoustique. Chose absurde, parce que par exemple, une batucada, ça fait plus de décibels qu'un instrument amplifié, mais voilà. Et donc, voilà, et oui, et c'est qu'en fait, ils n'ont pas interdit, ils sont venus, et ils ont dit, en fait, on va verbaliser tout le monde pour tapage. Voilà. Donc, on n'a pas voulu prendre la responsabilité que, même si on pouvait avoir des recours possibles, que les personnes qui viennent nous soutenir à l'Agora se fassent verbaliser. Donc là, on en est là aujourd'hui du rapport de force et donc on organise dimanche, ça c'est hyper important, une agora bâillonnée sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris. Et donc c'est une agora qui se déplace, et parce que on a la mairie de Paris pour l'instant autorisé cette agora. Et autre rendez-vous important, c'est samedi, donc demain, avec les grévistes de Livis-Batignolles, donc qui sont en grève historique et magnifique de détermination et de courage, et qui viennent prendre la parole et discuter, échanger avec les personnes sur la place de l'Odéon, donc samedi 17 avril, demain. Ouais. Voilà, et je finirai par un dernier rendez-vous très important, c'est le 23 avril, où il y a une manifestation des actions et grèves contre la réforme de l'assurance chômage partout en France. Ça se coordonne et ça se mobilise pour que ce soit une très grande journée pleine de détermination contre ce projet infâme de réforme.
Oui. Bah ça part à toute l'équipe, hein, parce que là, on a l'équipe historique d'AC qui est ici dans l'émission. Hein, je ne vous présente plus, les camarades. Une réaction, hein, Gilles?
Oui, j'avais juste une question, Marion. Dans le cadre de ces occupations, est-ce que toutes les professions sont représentées? Est-ce que également, est-ce que les dirigeants de l'institution sont partie prenante?
Sur l'occupation de l'Odéon?
Oui.
Non, ils sont plutôt pas contents qu'on soit là. Donc,
D'accord. Voilà. Non, c'était juste pour avoir une idée, pour que l'auditeur puisse. Mais... D'accord, très bien.
Ah bon, ils sont mais pas contents que vous soyez là, mais l'Odéon est fermé.
Mais normalement, oui. Effectivement. Deuxième question, Marion, excuse-moi, deuxième question. Donc, vous avez été plus ou moins verbalisé. Enfin, il y a eu une intervention de la police et vous avez été plus ou moins verbalisé. Enfin, c'est ce que j'ai bien compris dans le bras de fer, là. Est-ce que il y a eu une tentative d'exclusion? Est-ce qu'ils ont essayé de vous sortir de l'Odéon pour le coup?
Alors non, pas du tout.
Non, pas du tout. D'accord. Okay.
Alors, puisqu'on parle de l'assurance chômage, nous allons passer notre premier morceau, que nous présenterons après. On vous laisse la surprise sur l'inactivité, en fait.
À quoi sert un couillon quand il est désœuvré ? Dit le patron des patrons en plein congé forcé, comme une vieille entière. Il est temps d'être utile, à vivre et à rêver. À quoi pense un Macron quand il est désœuvré ?
Ouais, on se demande ce que pense Macron. En fait, on s'en fout un peu parce qu'on sait qu'il ne pense pas beaucoup, cet homme-là. Mais par contre, nous, on a toujours des réponses à pas mal de questions et on a surtout tous les sujets qui viennent autour des luttes. Comme on a vu, il y a plusieurs professions qui sont représentées ou qui viennent parler aux Agora, donc devant l'Odéon. C'est pas la première fois qu'un lieu de travail est occupé, on le sait. Et même il y a 150 ans, la question se posait déjà de que faire avec ces lieux qui sont désœuvrés, hein, notamment par l'abandon de leurs patrons, l'abandon des industriels. Et il y avait comme ça à Paris, au moment de la Commune, beaucoup d'ateliers qui étaient abandonnés et la Commune a décidé de prendre les choses en main. Et c'est pour ça que, fidèle à notre habitude de vous lire des extraits de documents d'époque, Gilles va nous présenter le décret d'intention qui permettait la réquisition des entreprises abandonnées par leur employeur. À toi, Gilles.
Merci. Oui, effectivement, c'est bien le 16 avril 1871 qu'un décret de principe de la Commune est signé, enfin même est voté, hein, on va dire ça comme ça, puisque c'est un décret de convocation des chambres syndicales ouvrières qui est adopté à l'unanimité, moins une voix, par la Commune de Paris, donc bien le 16 avril, donc en séance plénière. Hein, voilà. Donc la Commune de Paris considère qu'une quantité d'ateliers ont été effectivement abandonnés par ceux qui les dirigeaient, afin d'échapper aux obligations civiques et sans tenir compte des intérêts des travailleurs. Voilà. Il considérait également que par suite de ce lâche abandon, de nombreux travaux essentiels de la vie communale se trouvent interrompus et l'existence des travailleurs compromise. Éventuellement, les gens vont se retrouver, pour le coup, au chômage, hein, puisque le chômage déjà existait à l'époque. Voilà. Donc, également, ils veulent dresser une statistique des ateliers abandonnés, comme tu viens de le dire, ainsi qu'un inventaire de l'état dans lequel se trouvent les instruments de travail qu'ils renferment. Ils veulent également présenter un rapport établissant les conditions pratiques de la prompte mise en exploitation de ces ateliers, non plus par les déserteurs qui les ont abandonnés, mais par l'association coopérative des ouvriers qui y étaient employés. Ils veulent élaborer un projet de constitution de ces sociétés coopératives ouvrières. Je te lis là le décret des ateliers, tu as bien compris le principe. Ils veulent constituer également un jury arbitral qui devra statuer au retour des 10 patrons sur les conditions de la cession définitive des ateliers aux sociétés ouvrières et sur la quotité de l'indemnité qui auront à payer les sociétés aux patrons. Donc en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est carrément une réquisition des ateliers abandonnés pour que l'outil de travail revienne aux travailleurs. Hein. C'est ça l'idée.
Une collectivisation.
C'est ça, tout à fait.
Comme
tout à fait.
L'a dit.
Oui, tout à fait. Donc cette commission d'enquête devra adresser son rapport à la commission communale de travail et de l'échange, qui sera tenue de présenter à la commune, dans les plus brefs délais, le projet de décret donnant satisfaction aux intérêts de la commune et des travailleurs. Alors, voilà, ça, je t'ai lu rapidement le décret que j'ai en main. Il faut savoir que la commission, suite à ça, donc ça a été voté à l'unanimité moins une voix. Suite à ça, donc des commissions se sont installées pour effectivement faire des statistiques. Hein, donc voilà, le début de la statistique, on va dire. Et donc ils ont mis beaucoup de temps à se mettre en place puisque c'est quand même compliqué, hein, de trouver des gens qui vont faire des rapports, qui vont aller sur les usines, etc. pour vérifier tout ça. Donc, ils ont mis un mois pour se constituer. Et ensuite, ils ont travaillé. Donc, ils ont mis plusieurs mois pour faire ça. Et donc, le rapport qu'ils ont plus ou moins rendu donne à peu près ces chiffres-là. Mais c'est des chiffres qu'on peut éventuellement mettre en doute puisque je n'ai qu'une source d'information. Il faudrait peut-être vérifier avec d'autres sources, hein, pour le coup. Mais ils considèrent qu'il y a 600 000 ouvriers parisiens enregistrés comme salariés chez les petits patrons. Seuls 114 000 salariés ont un travail. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, donc sur 600 000, on n'a que 114 000 qui travaillent, donc tous les autres sont au chômage, hein, ou alors voilà, sans emploi, c'est le cas de le dire. D'accord ? Dès le 5 avril, la commune avait créé des bureaux pour grouper les offres et les demandes concernant l'industrie et le commerce, donc ce qu'on pourrait appeler l'origine de la NPE, hein, on peut dire ça comme ça. Voilà. Mais cela demeurait évidemment insuffisant, tant l'offre était affaiblie par l'abandon des entreprises par leurs propriétaires. Donc effectivement, tous les rats sont partis, donc les outils de travail se retrouvent donc sans personne à la direction des entreprises, et puis les ouvriers ne peuvent plus travailler, puisqu'ils n'ont plus de direction. Donc ils sont en train de réfléchir sur la possibilité de reprendre pour eux l'outil de travail, et de fonctionner sans patron, en fait. C'est un peu ça qui est l'idée, hein, tu vois. Donc, voilà. Alors, juste de donner, si je peux me permettre, juste l'enquête statistique qui est décidée, à charge pour les chambres syndicales ouvrières de la mener, hein, c'est donc bien eux qui mènent les enquêtes. La délégation met 8 jours à se constituer. Là, c'est une dernière délégation, met 8 jours à se constituer. Elle se réunit dans un local du ministère des Travaux publics, d'accord. En réalité, il faut plus d'un mois. Donc, c'est ce que je dis tout à l'heure, pour que la commission soit véritablement à pied d'œuvre. La deuxième réunion se tenait le 18 mai, donc c'est un mois après, donc c'est il y a plus d'un un mois plus tard, et est tenue par 42 associations ouvrières de production et 34 chambres syndicales. Donc, tout le monde, en fait, ça fait du monde, hein, pour le coup. Hein. Si tu mets 42 associations ouvrières et 34 chambres syndicales, c'est-à-dire qu'en fait, la contestation prend de l'ampleur et ça devient très, très important, hein, pour le coup. Voilà.
Oui. Je voulais juste faire une remarque, hein, ouais, si c'est possible, c'est que là, le nombre de chômeurs importants, hein, comme on l'a vu, hein, 600 000 ouvriers, il y a 140 000 personnes qui travaillent, c'est évidemment essentiellement lié au siège de Paris, hein, c'est pas du tout un truc structurel. Et donc c'est vraiment un côté de circonstance. C'est que la deuxième chose, c'est que la garde nationale a suppléé en partie au chômage, et ça a été d'ailleurs un enjeu, hein, de maintenir la solde des gardes nationaux que Versailles voulait supprimer. Et puis la commune, considérant qu'on était toujours en guerre, elle ne voyait pas non plus pourquoi il fallait réduire la solde des gardes nationaux. Voilà. Et la troisième chose, mais bon, on en parlera dans une autre émission, c'est que l'originalité de la commune, c'est que c'est quand même quelque chose qui vient du bas, l'appropriation des moyens de production. D'abord, c'était une revendication de longue date des ouvriers, hein, la coopérative, qui avait toujours été interdite.
Je précise, oui, que le secrétaire de la commission du travail et de l'échange, c'est Frankel. C'est le monde de l'international.
Absolument. Dire, effectivement. Voilà. Voilà. Mais bon, c'est un vaste débat dont on parlera. Mais en tout cas, s'il y a bien une chose contre laquelle était Versailles, c'était les coopératives de production, l'association des travailleurs, etc. etc. Tout ça, c'était impensable pour eux. Toucher au capital, toucher à la concurrence.
Alors, je voulais juste rajouter un mot là-dessus, c'est que le décret donc du 16 avril 1871, donc jour pour jour, il y a 150 ans par rapport à aujourd'hui, hein, bien sûr, hein, voilà, va bien plus loin puisqu'il respecte encore la propriété privée. Il visait néanmoins, selon les termes de Lisagaray, à restituer à la masse dépossédée la propriété de son travail. Donc on est bien là, effectivement, s'approprier bien l'outil de travail par les travailleurs.
Une organisation populaire.
Et ce qui est intéressant, justement, bon, dans tout le processus de la commune, c'est que elle est inspirée, elle n'est pas dirigée, mais elle est inspirée par beaucoup d'idées de l'international, mais comme tu dis, Gilles, les fédérations se constituent par en bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les ouvriers ou les chambres syndicales. Hein. Je vais vous lire d'ailleurs un court extrait du journal officiel du jour qui traite justement de cette question-là. Et voici l'extrait. Juste une seconde. Voilà. Fédération artistique. Tous les auteurs, compositeurs, artistes dramatiques et lyriques présents à Paris sont sérieusement invités à se réunir le dimanche 16 avril 1871 à 2 heures précises à la salle de l'Alcazar, 10 Faubourg Poissonnière. La réunion des membres convoqués a pour but d'arrêter la formation définitive de la fédération artistique. Donc, d'un côté, effectivement, les fédérations ouvrières, mais de l'autre, aussi les artistes, les peintres, les chanteurs, tous les dramaturges, toute la population qui est engagée dans l'art, qui est quand même une population importante à Paris à l'époque, vu le nombre de cabarets, d'opéras, etc., est invité par, notamment sous l'égide de Courbet, à se fédérer en fédération artistique, dont l'objectif était d'être en capacité de produire un art indépendant à destination du plus grand nombre. Donc, on voit que là, ça résonne un petit peu. Alors, je voulais... Ça résonne un peu avec ce que vous êtes en train de faire, en fait, Marion, à l'Odéon, non ?
Bien, oui, tout à fait. Et puis, ce qui est important aussi de noter, que j'entends là dans le texte que tu as lu, c'est effectivement d'ajouter aussi une dimension... de lutte de classe au sein des artistes, et c'est aussi ça qui se joue là dans les occupations et plus généralement dans les mouvements, notamment des intermittentes du spectacle depuis ces dernières années. C'est que, et on le voit aussi dans les rapports avec les directions, pour le coup pas à Paris, enfin pas à l'Odéon, mais dans d'autres lieux, dans d'autres villes de France, c'est qu'en fait, bien souvent, comme je parle pour le théâtre, parce que je fais du théâtre et je suis plus à même de parler de ça, on est amené à travailler avec les directeurs et directrices de lieux, à parfois les connaître de manière très personnelle, voilà. Et du coup, c'est difficile parfois d'avoir... de distinguer qu'on a des intérêts différents et que en fait il y a aussi des rapports de classe qui se jouent à l'intérieur de nos métiers, et il y a toute une partie des intermittents du spectacle aussi qui tiennent, et là c'est très criant dans l'occupation, à aussi se définir comme des travailleurs et des travailleuses de l'art, et pas seulement des artistes qui seraient coupés du tissu social et des prises de position politiques et des rapports politiques et sociaux.
Voilà, exactement. Et donc, toujours dans la fédération, toujours dans l'idée de fédérer des groupes d'intérêt, des luttes et des préoccupations, il n'y a pas que les artistes et les ouvriers et ouvrières qui se fédèrent. Il y a une initiative notable pendant la Commune qui tient plutôt du mouvement féministe, c'est la constitution d'une fédération de femmes au service de la garde nationale. Et là, c'est Ludo qui va nous présenter l'initiative d'André Léo.
Absolument. Alors, sauf que je tiens à te corriger, il n'y a pas qu'André Léo, mais il y a une certaine Elisabeth Dimitrieff, évidemment que tu connais bien, puisque c'est l'envoyée de Karl Marx, en fait, de l'Internationale, qui arrive là par hasard, parce qu'au départ, elle remplace quelqu'un. Elle a 20 ans et elle a déjà milité, elle a un passé militant de ouf, et c'est elle qui va fonder l'Union des femmes, exactement, hein, l'Union des femmes pour la défense de Paris et le soin et les soins aux blessés. Alors on y reviendra, donc je vais vous lire le décret. Donc, l'Union des femmes manifeste du comité central de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Au nom de la révolution sociale que nous acclamons, au nom de la revendication des droits du travail, de l'égalité et de la justice, l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés proteste de toutes ses forces contre l'indigne proclamation aux citoyennes parue et affichée avant-hier, émanant d'un groupe anonyme de réactionnaires. La dite proclamation porte que les femmes de Paris en appellent à la générosité de Versailles et demandent la paix à tout prix. La générosité de l'âge assassin. Une conciliation entre la liberté et le despotisme, entre le peuple et ses bourreaux. Non, ce n'est pas la paix, mais bien la guerre, à outrance, que les travailleuses de Paris viennent réclamer. Aujourd'hui, une conciliation serait une trahison. Ce serait renier toutes les aspirations ouvrières, acclamant la rénovation sociale absolue, l'anéantissement de tous les rapports juridiques et sociaux existants actuellement, la suppression de tous les privilèges, de toutes les exploitations, la substitution du règne du travail à celui du capital, en un mot, l'affranchissement du travailleur par lui-même. 6 mois de souffrance et de trahison pendant le siège, 6 semaines de lutte gigantesque contre les exploiteurs coalisés, les flots de sang versés pour la cause de la liberté sont nos titres de gloire et de vengeance. La lutte actuelle ne peut avoir pour issue que le triomphe de la cause populaire. Paris ne reculera pas, car ils portent le drapeau de l'avenir. L'heure suprême a sonné, place aux travailleuses, arrière à leurs bourreaux. des actes, de l'énergie. L'arbre et la liberté croient arrosés par les sangs de ses ennemis. Tout uni et résolu, grandi et éclairé par les souffrances que les crises sociales entraînent toujours à leur suite, profondément convaincu que la commune, représentante des principes internationaux et révolutionnaires des peuples, porte en effet les germes de la révolution sociale, les femmes de Paris prouveront à la France et au monde qu'elles aussi sauront, au moment du danger suprême, aux barricades, sur les remparts de Paris, si la réaction forçait les portes, donner comme leurs frères leur sang et leur vie pour la défense et le triomphe de la commune, c'est-à-dire du peuple. Alors victorieux, à même de s'unir et de s'entendre sur leurs intérêts communs, travailleurs, travailleuses, tous solidaires, par un dernier effort, anéantiront à jamais tout vestige d'exploitation et d'exploiteurs. Vive la République sociale et universelle, vive le travail, vive la commune. Et c'est la commission exécutive du travail, donc, qui est, alors évidemment il y a beaucoup d'hommes, mais il y a aussi donc Madame Dimitrieff, c'est une déclaration qui date du 6 mai 71, donc c'est un peu tardif. Mais en fait c'est très important parce que c'est un appel aux armes en fait, des femmes en fait aux armes, et c'était un enjeu pendant la Commune puisque les hommes de la Commune ne souhaitaient pas voir les femmes porter les armes, défendre la commune, les officiers refusaient, et donc elles ont dû, dans un premier temps, se cantonner du rôle de secouriste pour que
et de cantinière.
Voilà, et de voilà, c'est ça, de cantinière. Et en fait, donc les communards de base, eux, les ont acceptés parce qu'ils avaient des besoins. Et donc voilà, on a vu et c'était une revendication qui était fondamentale parce que effectivement presque toutes les autres revendications au sein de la commune, ça, elles les ont eues. Elles n'ont pas vraiment demandé le droit de vote, mais le droit de vote n'était pas une priorité en fait à l'époque. C'était pas du tout le cœur du sujet. Mais par contre, l'égalité avec les hommes, c'était aussi les citoyennes en armes.
Et d'ailleurs, oui. D'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle « Citoyennes de Paris, descendantes des femmes de la Grande Révolution hein, ». C'est un peu ça l'idée, je crois, Guillaume.
Tout à fait, oui.
Qui, au nom du peuple et de la justice, marche en fait sur Versailles. Hein.
Oui, tout à fait. Enfin, qui voulait marcher sur Versailles.
Ouais, voilà, tout va. Donc, voilà.
Alors,
c'est une lutte. Ouais. C'est une lutte qui se veut émancipatrice hein, de la classe ouvrière. Donc, c'est effectivement, tout ce que tu viens de dire est vrai. Il n'y a pas de souci. Mais c'est en fait, voilà. Donc, moi, c'était un texte qui vient de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés hein, de Florence Braca. Voilà, donc d'ailleurs, si je peux me permettre une seconde, je vous conseille un ouvrage qui s'appelle, c'est aux éditions de l'Atelier, c'est coordonné par Michel Cordillot, c'est la Commune de Paris 1871, les acteurs, l'événement et les lieux, et c'est un petit dictionnaire qui est vachement intéressant, voilà, qu'on m'a prêté.
Et que ça vient de sortir, ça, hein ?
Oui, c'est tout récent, oui, tout à fait,
On mettra la référence parce qu'effectivement, je crois que c'est un ouvrage assez majeur. Oui. Alors, effectivement, il y a eu une espèce de réaction négative de certains hommes, notamment, si j'ai bien compris, Ludo Rossel,
oui,
qui a été le deuxième ministre de la guerre de la Commune, hein, après Pindrel, du 1er au 8 mai. Il est resté juste une semaine. Mais il avait des avis très arrêtés. Bon, c'était un militariste à l'ancienne. Hein. C'était l'idée de l'armée napoléonienne. Hein. Donc,
oui, tout à fait. Il a trahi. C'est pas un grand progressiste, mais il a trahi son corps d'origine au nom du patriotisme. Hein. Au nom de refuser de capituler, enfin contre les capitulars, les généraux capitulars. Mais après, on sait bien que la commune était faite de beaucoup de monde différent. Mais il a été fusillé quand même. Hein.
Oui.
Voilà. C'est
intolérable pour les Versaillais qu'un officier de l'armée régulière trahisse effectivement, alors trahisse entre guillemets, on va dire, hein, trahisse la cause de son armée, quoi. Et rejoigne la commune.
Alors c'est marrant parce que cette histoire de porter des armes, c'est devenu un symbole en fait de l'égalité homme-femme dans la commune. Mais en réalité, c'est bien sûr que le problème du statut des femmes avant la commune, avait une dimension. Je pense qu'on peut pas s'imaginer à l'époque ce qu'était le statut de la femme qui n'avait pas accès à l'enseignement secondaire, supérieur, professionnel, dont l'enseignement était occupé, était tenu par des bonnes sœurs, hein, c'est-à-dire que et dans l'idée hein, de bien apprendre à ce que c'est qu'une éducation des jeunes filles à être une bonne femme, une bonne mère, Donc quand les femmes, une des revendications des femmes, c'était la mixité. Donc dans les écoles, la mixité, elle a eu lieu en 1968. Ouais. Pour vous dire, hein. Donc il y avait quand même, ils avaient 100 ans d'avance. La mixité, la laïcité, oui, de l'éducation, et évidemment l'éducation des filles, dans l'idée, l'accès à l'éducation complète des filles, dans l'idée de faire des femmes émancipées, hein, entre autres comme évidemment l'égalité des droits civils, tout ça, tout ça. Et donc voilà, donc en fait la question était beaucoup plus riche que juste cet aspect de porter des armes, voilà, qui reste dans le texte, quoi. Et il faut dire aussi que le mouvement ouvrier était extrêmement lui-même misogyne. Enfin, ça, il était très conservateur. Hein.
Il faut être clair là-dessus. Ça, c'est l'influence de Proudhon. Malheureusement, on peut dire ce qu'on veut sur Proudhon, mais il n'était pas franchement favorable à l'émancipation des femmes. Hein. Il était pour sortir les femmes de tout lieu de travail. Le travail des hommes pour lui.
Mmh. Mais c'était pas que lui. Oui, parce que alors après, c'est peut-être des arguments du style les femmes prennent. Oui, c'est ça, ce sont des concurrentes par rapport aux hommes. C'est un vieil argument, hein, qu'elles font baisser le salaire. Voilà. Il fallait. Mais il y avait plein de gens qui pensaient la même chose. Hein. Je pense qu'il n'était pas du tout isolé, même si c'était le plus brillant, quoi.
Alors là, on a fait le tour des glorieuses ancêtres. La question, c'est de savoir aujourd'hui, Marion, comment toi, qu'est-ce que tu penses qu'il y a comme combat encore dans une lutte comme la vôtre à transposer ou à s'inspirer sur la question de l'émancipation des femmes? Ou est-ce que ça y est, c'est acquis, il n'y a plus rien à faire?
Alors non, c'est pas du tout acquis. Et je me permettrai d'abord une première réaction par rapport à la lecture de ce texte, de son contenu et aussi, notamment Gilles, tu disais c'est tardif parce que c'est quand même le 6 mai. Ça m'a mis la puce à l'oreille et en fait, un truc que je retrouve quand plus je découvre un peu les périodes de l'histoire et le rôle des femmes dans l'histoire, c'est que bien souvent, voire quasi tout le temps, dans les moments révolutionnaires, c'est elles qui sont en première ligne, qui sont les plus radicales, les plus déterminées et les plus intransigeantes et qui ont le moins de collusion avec le pouvoir et avec l'ennemi. Et en fait, ça se retrouve aussi maintenant dans le mouvement d'occupation où il y a depuis le début énormément de meufs, que ce soit ça, c'est pas. Parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, et ça, c'est hyper important, parce que oui, il y a beaucoup de théâtres occupés, mais pas seulement, aussi des lieux culturels, pas seulement non plus, ça dépend des réalités géographiques, et dans les lieux occupés, il y a pas que les intermittents et intermittentes du spectacle qui occupent, mais aussi, plus généralement, les intermittents et intermittentes de l'emploi, notamment les maîtres d'hôtel, les guides conférenciers et conférencières, et aussi la jeunesse magnifique que nous avons, les étudiants et étudiantes en art conservatoire et étudiants et étudiantes tout court, voire des jeunes travailleurs et travailleuses qui occupent aussi avec nous ou aussi en propre dans certains lieux. Et en fait, je dis ça aussi parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais on voit à quel point les femmes sont en première ligne et mènent à la fois politiquement et en termes organisationnels les occupations, parce que ça, c'est toujours en 2021 une chose qui n'est pas considérée comme politique, c'est l'organisation de la vie quotidienne, c'est des choses qui ont du mal à être prises en charge collectivement et qui reposent bien souvent sur les personnes en propre, du coup souvent des femmes. Et sur cette question d'une prise de position politique plus générale avec un texte, etc., qui est tardive, en fait, nous, c'est pareil. C'est-à-dire que depuis le début, on est en première ligne. Par exemple, ça fait depuis lundi seulement, donc à plus de 5 semaines, entre 5 et 6 semaines d'occupation, que nous avons des réunions non mixtes, en non mixité, femmes et minorités de genre qui se tiennent. Et quand on a posé ce point-là en AG, on a eu les réactions habituelles, tout type de réactions. Et en fait, on voit que tout le monde est très content de dire « Ah ouais, les femmes, elles sont super dans notre organisation, vraiment, elles portent le truc, voilà, ça fait bien, c'est une vitrine. » Mais que dès qu'on s'organise et qu'on s'auto-organise, là, on devient une menace. même à l'intérieur même de notre camp. Et je pense que il y a des formes de ce même type qui se sont passées sur la commune et à mon avis qui expliquent ces prises de position tardives. C'est que en fait ça nous prend du temps parce que la sociabilité hétéro-patriarcale fait que ça nous prend du temps à créer une sororité politique, à s'organiser, etc. Et en fait, là, par exemple, pour ce qui est de l'occupation de l'Odéon, ça fait seulement quelques jours qu'on commence à s'organiser et à pouvoir dire aussi, mettre en commun et faire monter en politique tout ce qu'en en fait, on se rend compte qu'on vit depuis le début en tant que femme et minorité de genre.
Alors, oui, permettre une réaction, Marion, je suis d'accord avec toi, bien sûr, sur l'essentiel. Effectivement, les femmes, hier comme aujourd'hui, sont souvent à la pointe des contestations et sont malheureusement, une fois que la mayonnaise prend, effectivement, ce sont les hommes qui récupèrent au niveau de la télé, de la radio, etc., tous les éloges, on va dire, et toutes les femmes qui ont été à l'origine peut-être de la contestation en réfléchissant, en communauté, etc., pour faire avancer les choses, elles sont effectivement relayées, ça s'est vu en 68, ça s'est vu à la commune, elles sont relayées à simplement des trucs de secours et puis de bouffe, on va dire ça comme ça, alors que souvent il y avait des intellectuels parmi ces femmes-là qui ont fait avancer évidemment la cause, pour le coup, on peut parler de Louise Michel à l'époque ou d'autres, bien sûr, beaucoup. Et donc, c'est bien dommage qu'effectivement, les femmes n'ont pas réussi à marquer, au niveau des bouquins d'histoire, etc., leur passage dans ces différentes révolutions, on va dire, je ne sais pas comment ça s'est passé en 1830 ou 48, mais je considère qu'effectivement, les femmes, sur la commune, effectivement, les femmes étaient assez nombreuses, bien que beaucoup moins nombreuses que les hommes, mais elles étaient quand même réunies en commission, elles avaient quand même des réflexions assez pertinentes, et effectivement, on ne les a pas écoutées, et on ne les a pas entendues, et c'est bien dommage.
Oui, non, mais le problème, c'est pas, c'est bien dommage qu'on parle ici, c'est qu'elles n'aient pas, c'est qu'il n'y ait pas de, c'est qu'on les, c'est que leur, il n'y ait pas de nom. Aujourd'hui, on ne trouve, là, par exemple, pour la commune, on trouve qu'un seul nom, celui de Louise Michel. Pour la Révolution française, tu ne trouveras pas de grand nom de femme qui, même Olympe de Gouges, en fait, elle n'a pas sa place dans les hommes qu'elle dit. Et c'est plutôt ça le problème, parce que finalement, l'implication, l'organisation des femmes dans la commune, je dis que le texte était très tardif, mais en réalité, elle s'est fait très très rapidement. Il y avait des militantes très chevronnées qui ont organisé très très vite le truc. Par contre, effectivement, le texte est tardif parce que c'est effectivement la commission militaire de la commune qui est aux abois et évidemment qui, là pour le coup, les femmes par exemple seront sur les barricades et donc lancent un appel à tout le monde, y compris aux femmes. Mais en réalité, les femmes étaient très très bien organisées et elles avaient un programme politique précis qui était aussi qui concernait le travail des femmes, l'auto-organisation, l'égalité salariale. Voilà. Alors c'est vrai que ça a cohabité, on va dire, avec les instances dirigeantes de la commune. Mais enfin, la commune, tout partait du bas en fait. La commune. Donc voilà. Mais effectivement, au XIXe siècle, les hommes avaient quand même dans les milieux ouvriers, du mal à faire de la place aux femmes. Quoi.
Voilà. Alors, moi, ce que je voulais dire, donc ça nous dit quand même à quel point la célèbre photo de Louise Michel posant en uniforme de fédéré avec le chasse-pot à l'épaule, c'est une déclaration politique. C'est pas une photo pour la forme. L'époque, c'est une vraie déclaration politique. C'est pour mettre un peu les choses en contexte. Louise Michel, elle nous dit quelque chose en prenant cette pause-là. Donc ça, c'est important. Et là, on va passer à une petite pause musicale. On va développer sur les thèmes politiques après. Et on va faire une petite pause musicale. Parce que, évidemment, les Versaillais, ils n'ont pas beaucoup de vues sur les choses. Eux, ils rangent tout ça dans la canaille. Ces femmes qui veulent porter les armes, ces ouvriers qui veulent réquisitionner les usines, ces artistes qui se fédèrent, c'est de la canaille. Allez.
Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille pour palais ils l'ont en sabots, mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous ses drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire aux ennemis, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis.
Bonsoir, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 de la bande FM, c'est l'émission Mode d'emploi, l'émission d'agir ensemble contre le chômage, avec l'équipe de Secrets de Fabrication, donc Bob pour présenter l'émission, Ludo, Vic, moi-même au micro et Gilles, et nous recevons Marion qui nous parle de l'occupation du théâtre de l'Odéon. Alors, on parlait de la commune, c'était le sujet de les femmes dans la commune. Alors, on a oublié de dire en fait que le rôle des femmes a été extrêmement. Si on se souvient seulement de Louise Michel, c'est parce qu'on a occulté et on a criminalisé presque tout le rôle des femmes pendant la commune. Donc, elles ont été traitées effectivement de pétroleuses. Alors, pourquoi les pétroleuses ? C'est qu'en fait, on les a accusées d'avoir incendié Paris. Au moment de l'occupation hein, de l'armée versaillaise. Alors, il s'est trouvé que c'était faux, en fait, qu'on n'a jamais vraiment établi, il y a eu des procès, hein, et qu'on n'a jamais pu prouver que c'était bien les femmes qui avaient mis le feu à tous ces bâtiments. Et par ailleurs, pour la bonne bourgeoisie de Versailles catholique, c'était forcément que des femmes puissent se politiser, puissent avoir des idées telles qu'elles avaient eues. C'était forcément une aberration, et donc c'était une aberration naturelle, une aberration. C'était forcément des filles de mauvaise mœurs, des prostituées, etc., etc. Et alors la question du genre quand même est restée parce que. C'était des demi-hommes, hein, grosso modo, c'est comme ça qu'on les appelait. C'est-à-dire que même Louise Michel, finalement, Louise Michel, à la fin, ne pouvait être qu'une vierge, une vierge rouge. C'est-à-dire quelqu'un qui était tout à fait atypique par rapport voilà, à sa sexualité et à tout ça. Et donc voilà, donc les femmes ont aussi été copieusement enterrées, à la fois par les Versaillais, par tous les artistes, orthodoxes de l'époque.
Ouais. Et d'ailleurs, sur cette image des pétroleuses, l'image de la pétroleuse, c'est l'image de la femme qui tient un récipient à lait.
Ah, oui, oui.
Pour verser du pétrole. Et en fait, le fait de remplacer le lait par le pétrole, c'est ça l'attentat. En fait, dans l'imaginaire versaillais, c'est ça l'attentat contre la féminité. Quoi. Donc, l'enfant met du pétrole sur le feu.
En gros, elle sort de la cuisine pour brûler Paris.
Je voulais passer la parole à Marion justement sur cette affaire d'inscription de la lutte politique dans les corps.
Bien oui, ça fait écho, parce qu'effectivement, les femmes sont... La question du corps, elle est toujours hyper importante dans les rapports... dans les rapports de genre, de sexe, mais aussi de race sociale, parce que en fait, cette histoire des pétroleuses qui sont constituées comme menaces, y compris physiques, et avec ce parallèle avec le lait, qui viendrait menacer même jusque dans la vie intime des citoyens et citoyennes, et que par ailleurs les communeuses sont aussi sur les barricades, donc elles exposent aussi leur corps à l'ennemi, à la menace. Ça me fait penser que lors des derniers Césars de cette année, Corinne Maziero s'est mise nue et avait inscrit des revendications et des slogans sur son corps, et les réactions ont été d'une violence et d'un sexisme assez virulent à ça. Et en fait, ce sexisme, et je pense qu'il y a eu cette forme-là dans la réaction des Versaillais vis-à-vis des communeuses, c'est un sexisme qui se double d'un mépris de classe énorme et qui s'inscrit aussi dans la question des corps. Et effectivement, les pétroleuses, on va essayer de dégrader leur image et de faire peur en disant elles sont prostituées, etc. Enfin voilà, tout ça. Et on voit ça un peu tout le temps, en fait, sur la question des femmes. On le voit aussi en ce moment de manière ultra violente et qui fait très très peur sur par rapport aux femmes voilées. Et du coup là, ce sexisme se double d'un racisme. En fait, c'est toujours pareil, quoi. C'est dès que s'organisent les femmes, quel que soit le point de vue depuis lesquels elles parlent, elles deviennent une menace. Et même le fait qu'elles parlent tout court, en fait, qu'elles aient la parole et qu'elles ne soient plus parlées, ça devient l'ennemi à abattre.
Oui, et puis si en plus elles ont des idées politiques, alors où va-t-on, quoi ? Enfin, en 1871, c'était ça, quoi.
Mais c'est surtout aussi...
Peut-être, pour faire un parallèle avec le fait aussi de ce qui nous a, la lutte qui nous attache aujourd'hui et de votre émission sur la réforme de l'assurance chômage aussi, c'est que en fait les personnes les plus précaires, c'est les femmes et les plus précarisées, ce sont les femmes et les personnes racisées, et qu'en fait là cette réforme, ça va, on sait que aussi oui les statistiques nous disent que les temps partiels imposés c'est majoritairement les femmes, etc., et que là en fait la réforme de l'assurance chômage s'attaque encore plus aux plus précaires et que ça va saigner salement pour les femmes et aussi avec les vagues de licenciements qui arrivent, quoi.
Tout à fait. Et il faut bien préciser qu'en fait quand on touche aussi à l'autonomie, en fait quand on touche au travail des femmes, c'est à l'autonomie des femmes auxquelles on, et à la dépendance. Donc du coup c'est toujours c'est une question centrale. L'égalité salariale et l'égalité devant le travail est toujours une question centrale du féminisme, quelles que soient les époques, de mon point de vue.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais rappeler le rendez-vous de demain. Je pense qu'il est important, au vu de tout ce qu'on a dit, la lutte d'Ibis est une lutte qui est menée par des femmes racisées, hein, en priorité. Et donc là, on est à la convergence de toutes ces problématiques-là, vraiment, clairement. Donc j'invite tous les auditeurs et les auditrices, bien entendu, à se libérer demain après-midi pour aller au Théâtre de l'Odéon, rencontrer ces animatrices de lutte qui sont vraiment effectivement infatigables. On a eu la chance de les avoir dans cette émission, tout comme on a eu la chance d'avoir le collectif des Matermitantes, qui sont exactement au croisement des mêmes problématiques. Je pense que c'est important qu'on rappelle ce genre de choses. Ouais, effectivement, dans cette émission, c'est clairement le but, quoi.
Alors j'avais juste une réaction par rapport à ce que vient de dire Marion, par rapport au corps. Hein. Je ne sais pas si c'est pas lié également au fait, au sentiment de puissance, de domination des hommes eux-mêmes, vécu ou ressenti par les hommes eux-mêmes par rapport aux femmes, qui fait qu'effectivement, elles sont toujours relayées à l'arrière, en fait. Hein, c'est un peu ça. Et c'est bien, voilà, donc c'est encore dans l'esprit collectif des hommes, c'était le cas hier et c'est le cas encore aujourd'hui, malheureusement, de ce sentiment un petit peu de, je ne sais pas si c'est de la domination pour le coup, mais c'est encore ce sentiment d'être un peu plus fort ou un peu plus responsable ou ceci, cela, tu vois.
Donc, je le mettrais dans l'autre sens, moi. Oui, je dirais d'accord. Je ne suis pas sûr qu'ils ressentent en temps normal une domination, mais par contre, l'émancipation, ça, c'est une menace. C'est-à-dire que c'est peut-être dans l'autre sens, en fait, on va dire. C'est qu'il y a une domination qui n'a pas besoin d'être dite, mais quand elle est remise en cause, alors là, oui, il y a un problème.
Oui, tu as pas tort.
Marion, qu'est-ce que tu en penses ?
Oh oui, tout à fait, je suis d'accord avec ça. Et effectivement, ce qui est difficile aussi, quand du coup, la question du corps rend visible cette domination. Et le fait que les femmes prennent leur place, toute leur place, c'est comme si ça allait menacer le territoire ou la place de l'autre, en l'occurrence là les hommes. Et du coup, souvent on a du mal à voir, que ce soit sur la question du racisme ou du sexisme, en fait que aussi, dès lors qu'il y a des dominations et des rapports de domination, en fait, les dominants aussi, et dominantes aussi, ont des... c'est aussi, ça a aussi des effets négatifs pour les personnes dominantes. En fait, il faudrait plutôt voir le verre, je ne sais pas, à moitié vide ou à moitié plein, en tout cas changer son regard et se dire que justement, c'est peut-être salutaire ces rapports qu'on vient menacer et ébranler.
Tout à fait. L'égalité, c'est bien pour tout le monde.
Eh oui, voilà. C'est bien pour tout. Exactement. Mais ça, c'est très, voilà. Ça, c'est très important.
D'ailleurs, on s'excuse d'être encore des hommes qui parlent des femmes juste dans cette émission en dehors de.
Alors, j'en profite pour lancer un appel. Effectivement, on a Nos deux formats, mode d'emploi standard et secret de fabrication, nous sommes ouverts à la présence d'intervenantes femmes, mais même y compris dans la construction de l'émission, pas que comme invité. Voilà, donc
on va se sentir menacé après, ça va être terrible.
Ouais, tais-toi, Ludo. Ça, c'est
tant
bon,
mieux.
Toi, tu sors. Déjà, quand tu sors, on va te remplacer par une femme, ça sera très bien.
Il faut nous menacer, Ludo.
On crie plus fort.
Voilà.
Voilà, c'est bien. Bon, alors juste pour boucler un peu, alors juste Claude, tu peux nous faire un signe, parce que là, j'ai pas sous les yeux. Il nous reste un peu combien de temps là pour finir le.
5 minutes.
Ouais, peut-être. Alors, dans ce cas, ce qu'on va dire vite fait, c'est est-ce que Marion, tu peux nous faire un point sur les développements que tu espères pour ce mouvement et éventuellement aussi peut-être un ou deux petits problèmes qui restent encore à résoudre pour que vous puissiez aller l'avant vers la grande fédération des théâtres nationaux qui va faire la prochaine commune, quoi. Hein,
bah, alors, les développements et les petits problèmes, c'est un peu lié. Et c'est plutôt plus largement que sur notre milieu. C'est que les occupations de pouvoir, alors qu'on était très isolés avec la crise sanitaire, de pouvoir se rencontrer, se rassembler, s'organiser ensemble, ça, c'est très précieux. Et sortir un peu de la dépression ambiante et de la violence qui nous est imposée et qui nous entoure depuis un an, eh bien, ça, c'est ultra positif et c'est un énorme point d'appui pour la lutte, mais ce n'est pas suffisant et en fait, on ne gagnera pas sans d'autres secteurs qui nous rejoignent, qui se mettent en grève, viennent en manif, se mettent en lutte, occupent leur lieu là où c'est possible, en fait, parce qu'en fait, cette lutte contre la réforme d'assurance chômage, elle concerne vraiment tout le monde, encore plus là avec la crise économique qui vient et les vagues de licenciements, et puis même plus largement dans nos milieux des arts et de la culture, que vraiment les collègues prennent conscience que même l'année blanche, la reconduction de l'année blanche, c'est pas gagné, c'est même ça sent le roussi, et du coup, en fait, toutes et tous ensemble, on est vraiment plus fortes et c'est beaucoup plus joyeux.
Super. Donc, rendez-vous demain et le 23, donc, si j'ai bien compris, hein, pour les luttes à venir et les luttes présentes. Et je crois que nous avons fait le tour de notre émission. Merci Marion, merci beaucoup pour ta participation.
Merci beaucoup à vous pour votre invitation merci et votre toi. Émission. Oui.
Pas de souci. Ce sera pour. Évidemment, nous réservons le droit de te réinviter une autre fois. Hein, et ce sera vraiment avec plaisir, mais il n'y a pas de problème. Allez, on vous dit bonne fin de soirée à tout le monde et puis à la prochaine.
Bonsoir.
Merci, salut.
Bonsoir, au revoir.
Bonsoir, au revoir.